enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Ce matin, devinez quel sera mon thème. Le prix de l'autorité, partie 6. Le prix de l'autorité, partie 6. Alors, pour ceux qui seraient frustrés en se disant « Ah mince, alors, moi, j'ai pas entendu les 5 premières parties, elles sont à la librairie, vous pouvez vous les fournir. » Cependant, chaque message se tient en lui-même, tout en étant un complément de ceux qui le suivent ou le précèdent. Luc 6, 40. N'ouvrez pas vos Bibles, vous devriez le connaître par cœur. Est-ce qu'on peut m'augmenter un peu juste le retour, s'il vous plaît ? Luc 6, 40. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Comment est notre maître ? Notre maître est juste. Notre maître est saint. Le disciple étant comme le maître, il est appelé à être saint. À côté de toi se trouve un saint. À côté de toi se trouve une sainte. Il y en a qui lèvent les yeux. Pourtant, c'est ce à quoi nous sommes appelés. Nous avons vu dans les 5 premières parties de ce message sur l'autorité que le disciple ne peut être plus grand que son maître. Cependant, il sera, s'il est accompli, comme lui. Nous avons, dans le 4e message sur l'autorité, remarqué que Jésus avait une autorité dans la prière incomparable. Au stade où Marthe, la sœur de Lazare, lui dira, malgré le fait qu'il était arrivé trop tard, Lazare était mort, « Je sais que si tu demandes quelque chose à Dieu, ce que tu lui demandes, il te l'accorde. » Et nous nous étions posés la question, mais d'où lui venait cette autorité ? Pourquoi avait-il autant d'autorité dans la prière ? Nous avons trouvé un élément de réponse, parce que je ne voudrais pas résumer l'ensemble uniquement à cette réponse-là, mais c'est un élément important. L'élément de réponse que nous avons trouvé est le suivant. Nous l'avons trouvé dans la bouche d'un aveugle qui avait été guéri par Jésus. Il était aveugle de naissance. Vous savez encore ce que Jésus lui a fait. Là, Jésus a guéri de manière remarquable. La Bible nous dit qu'il a craché par terre, il a fait de la boue et il l'a mis sur les yeux. Que diriez-vous ce matin si je vous faisais ça ? Béatrice. Ça, c'est sûr que c'est qu'un aveugle qui pouvait le faire. Hein ? L'aveugle retrouve la vue. Les pharisiens interpellés vont lui demander, mais qui a fait ça ? Et puis, parce que Jésus avait fait de la boue un jour de Shabbat, ils estimeront que c'est un pécheur. Mais voilà la réponse que donne l'aveugle. Il dira, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Qui veut être exaucé ce matin ? Alors, une première chose qu'il faut bien t'inscrire ici, c'est que Dieu n'exauce point les pécheurs. Le péché nous prive de l'autorité. Cependant, mon thème ce matin n'est pas celui-là. Mon thème, c'est triompher de la tentation. Parce qu'avant même de pécher, nous sommes d'abord tentés. Et si nous avons réalisé ensemble dans le quatrième message que Jésus, lui, priait, était exaucé parce qu'il ne péchait pas, ce qui m'intéresserait ce matin, c'est de découvrir quel était donc le secret de Jésus pour ne pas tomber dans le péché. Est-ce que son secret vous intéresse? Jésus a un secret. Jésus a un secret qui vous permet de lutter contre le péché. Jésus a un secret infaillible qui, si vous le mettez en pratique, vous permettra d'être fort là où aujourd'hui vous êtes faible. Et ce sera mon premier point. Le secret de Jésus pour résister à la tentation. Son secret se trouvait dans sa vie de prière. Et vous verrez avec moi à quel point la vie de prière joue un rôle central dans votre capacité, dans ma capacité de résister à la tentation pour ne pas tomber dans le péché. Pour Jésus, la prière était plus importante que la guérison ou l'enseignement. Les foules ne l'ont jamais éloigné de son temps de prière, jamais. Regardez dans Luc 5. Il est dit au verset 15, sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Nous, lorsque la foule vient, eh bien, on se laisse rapidement tourner la tête par la foule. On est tout d'un coup tellement occupé que la prière devient secondaire. Christ, lui, a toujours mis la prière en première place. Lorsque, eh bien, vous observez Jésus, vous verrez que la prière était plus importante que les miracles. Pourquoi ? Parce qu'il savait que les miracles n'avaient uniquement que lieu à cause de la prière. Et si tu comprends cela, alors tu vas redonner les priorités à la prière dans ta vie. Jésus savait que la prière était tellement importante qu'il n'hésitait pas à ne pas dormir. Il n'avait pas peur de se lever tôt. Pour lui, la prière était plus importante que son repos et son sommeil. Regardez, dans Luc 6, il est dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre. C'est pas à 11h, hein? Il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Luc 6, 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Est-ce que vous passez souvent toute la nuit à prier Dieu? Hello? Attendez, moi je me pose une question. Si le Fils de Dieu avait besoin de passer autant de temps dans la prière, mais alors moi, son disciple, je devrais au minimum, pouvoir passer autant de temps avec lui. Cependant, Dieu sait que vous avez un rythme de travail, Dieu sait que vous avez des charges, Dieu sait tout cela. L'essentiel, c'est que vous trouviez votre espace temps prière dans votre planning à vous. Un jour, se trouvait un prédicateur ici, et il nous avait tous exhortés à prier la nuit. Il nous avait dit à combien lui priait toutes les nuits. Alors j'ai été culpabilisé à la fin de sa prédication. Je me disais, moi j'arrive pas, Seigneur. Ben, je sais pas comment il fait. Si je prie toute la nuit, après le matin, moi je suis sauvage. Hein. J'ai les nerfs qui courent sur la tête. Et alors, je l'ai prise à part. Je lui dis, cher frère, dis-moi quel est ton secret pour prier toute la nuit et continuer à servir le Seigneur dans la journée. Ah, il dit, ah non, moi je prie de 3h à 5h et après je dors jusque vers 11h. Je dis, ah, ah. Mais ça, faut le dire aux gens. Parce que sinon, ils vont partir culpabilisés en se disant, lui, il arrive à faire quelque chose que moi, je n'arrive pas à faire. Ceci dit, Christine, Jésus passera toute la nuit dans la prière. Et il est dit que le disciple sera comme son maître. Vous savez pourquoi Jésus priait tant? Il priait tant parce qu'il savait que pour avoir autorité sur les principautés, les ténèbres, il fallait une vie de jeûne et de prière. Écoutez, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Non pas simplement jeûner pour le cas, mais c'est une vie de prière, une vie de jeûne. Souvent on se dit, eh bien on a un cas difficile, on va jeûner. Jésus c'était pas ça. Jésus c'était son style de vie hein, qui permettait à Dieu de lui donner une telle autorité que les démons fuyaient. Hello. Je sens que je vous fatigue ce matin. Hein. C'est un message qui vous assomme. Hein. Jésus savait que la lutte contre le péché exige une vie de prière. Et ce sera là le point que je vais développer. Jésus savait que la lutte contre le péché exige une vie de prière. Écoutez ce qu'il nous dit, Matthieu 26. « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Frères et sœurs, nous négligeons trop souvent l'ennemi de nos âmes, sa ruse et sa capacité de nous faire tomber. Si nous avions vraiment conscience de qui est en face de nous, nous saurions alors avec certitude que seule une vraie vie de prière peut nous aider à lui résister. Et le prix de l'autorité passe par là. Si Dieu n'exauce point les pécheurs, nous savons qu'il exauce ceux qui l'honorent. Et ceux qui l'honorent sont ceux qui résistent à la tentation. Mais comment vas-tu résister si tu n'es pas renouvelé par Dieu lui-même? Si Jésus, le Maître, avait besoin, lui, de la prière, toi et moi, nous en avons besoin. Mon deuxième point, la prière a un caractère impératif. Impératif, dis à ton voisin, c'est impératif. C'est pas une proposition. La prière, c'est pas, tiens, de temps en temps, quand vous avez envie, entre deux tasses de café et un whisky, vous pourriez prier. Non, regardez, Jésus va consacrer une parabole entière. La parabole de la pauvre veuve et du juge inique. Écoutez, Luc 18, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier sans se relâcher. Il faut. Nous voulons tous voir la gloire de Dieu. Nous voulons tous de l'autorité dans notre vie chrétienne. Nous voulons voir le Seigneur agir et intervenir. Si tu veux voir la gloire de Dieu, alors il faut. C'est pas une proposition que je te fais ce matin. Cependant, la prière n'est pas un exercice ascétique. La prière n'est pas simplement un exercice religieux. La prière doit te conduire dans une vraie et profonde relation avec Dieu. Mais à ce moment-là, la prière est intéressante. Tu t'ennuies pas quand tu pries. Moi, quand je prie, je m'ennuie pas. J'étais debout cette nuit et je priais et tout d'un coup, j'ai vu l'heure passer rapidement. Je me suis dit, maintenant, tu vas quand même encore une fois fermer les yeux pour reposer le cerveau. Même s'il n'y a pas grand-chose à reposer, il faut quand même le faire reposer. Hein? Il faut. Bien-aimé, pourquoi est-ce que je vous parle comme cela? Parce que nous sommes paradoxaux. Nous invoquons toutes les promesses de Dieu et nous voulons qu'elles se réalisent sans faire ce qu'il faut pour les voir s'accomplir. Ensuite, nous sommes frustrés parce que rien ne se passe. Si Dieu me met cette série de messages à cœur, c'est parce que Dieu veut que nous allions plus loin. Mais Dieu veut pas que nous nous contentions de prier en disant « Tu as promis, tu as promis, tu as promis. » Parce que le Seigneur nous répond « J'ai promis, mais je t'ai également dit et tu l'as pas fait. » Si tu veux aller de l'avant, il te faut prier. Si tu veux, qui veut ne pas pécher? Normalement, toutes les deux mains devraient être en l'air. Vous devriez même être debout. Oui, oui, ma soeur, voilà. Pas le péché. Eh bien, écoutez bien. Lorsque Jésus sera dans le désert face à Satan, conduit par l'Esprit, il passera son temps à faire quoi ? À prier et à jeûner. Et ce fut là qu'il eut l'autorité pour lui résister. Ce fut là que Jésus eut l'autorité. Souvenez-vous de ce que nous avons dit dans les messages précédents. Jésus était pleinement homme. Jésus n'a pas résisté en tant que Dieu. Jésus a résisté en tant qu'homme. Et Satan a échoué en face d'un homme. Mais d'un homme qui est venu nous montrer que c'était possible. C'est possible. Arrête de dire c'est pas possible. Arrête de dire on ne peut pas ne pas vivre sans péché. Arrête. Tant que tu diras ça, tu ne t'en sortiras pas. Commence à changer de mentalité. Marie-Christine dit à ton mari, Umscholta. Même pour les Belfortins, Umscholta. Changez de mentalité. Arrêtez de nous complaire et dire, Seigneur, tu nous as montré le chemin et nous allons le suivre. Maintenant, troisième point. Priez pour résister à la tentation. Jésus, dans Luc 22, 39 à 46, il nous a dit, après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples suivirent. Lorsqu'ils furent arrivés dans ce lieu, il leur dit, priez. Pourquoi ? Afin que vous ne tombiez pas en tentation. Un peu plus loin, après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Une équipe de dépressifs. Voilà ce qu'il reste au bout de 3 ans et demi de formation. Et il leur dit, pourquoi dormez-vous ? Levez-vous ! Et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. S'il venait ce matin, si Jésus venait physiquement dans cette salle, et s'il nous prenait tous les uns après les autres, que pensez-vous qu'il nous dirait ? Que penses-tu qu'il te dirait ce matin ? Est-ce qu'il te dirait, je me réjouis de ta vie de prière, ou est-ce qu'il te dirait, réveille-toi ! Réveille-toi ! Ouh ! Église, réveille-toi. Arrête de rêver. Réveille-toi, il est temps. Les temps se précipitent, tout va de plus en plus vite. Réveille-toi. Tu ne peux pas continuer ainsi. De quelle tentation Jésus leur parle ? Ben, une des premières, c'était qu'ils allaient s'endormir. Vous savez, il devait être 22h, 23h. La Pâque ne se célèbre qu'à la tombée de la nuit. Et il devait déjà faire très tard. Les disciples étaient donc fatigués. Première tentation, c'était celle, eh bien, de s'endormir. Et Jésus va prier pour qu'ils ne s'endorment pas. Pourquoi ? Parce qu'il savait qu'il y a derrière la tentation de dormir une tentation bien plus grave, c'est celle de le renier. Et il semble que dans ce fameux jardin de Gethsémané, eh bien, ils le renièrent tous. Lorsque les soldats vinrent pour prendre Jésus, la Bible nous dit, ils s'enfuirent tous. Il y en a même un qui est parti tout nu. Louis, tu te rends compte ? Moi, je voudrais pas que tu cours comme ça dans cette salle, hein ? Ya. Écoutez, c'est important que vous le notiez. Le relâchement dans la prière précède toujours la chute. Le relâchement, tu peux te le noter ça, mais dans ton cœur. Le relâchement dans la prière précède la chute. Combien se sont endormis ? Où en es-tu aujourd'hui avec ta vie de prière ? Vous savez, parfois je vois des hommes et des femmes qui viennent, qui se donnent à Jésus. Ils ont une vie de prière active. Et d'autres, après 5 ans, 10 ans, ils prient anecdotiquement, 30 secondes avant le repas, Merci Seigneur de bénir ce repas. Ou alors quand ils sont au restaurant, ils font des prières mal de tête. Vous savez ce que c'est une prière mal de tête? Oh Seigneur, merci de bénir ce repas. Amen. D'autres, ils ont d'autres techniques. Au resto, ils laissent tomber la cuillère et pendant qu'ils la ramassent, Seigneur Jésus, merci pour ce repas, tu es bon, tu es merveilleux. Blablabla. Amen. Mais attendez! Et ensuite, nous voulons, oh Dieu, donne des miracles et des prodiges, nous n'avons aucune autorité, nous ne sommes que de ridicules pantins. Et je m'adresse aussi aux jeunes ce matin. Allez, tous les jeunes en dessous de 25 ans, levez-vous. Levez-vous voir, tous les jeunes en dessous de 25 ans, là où vous êtes, tous les jeunes en dessous de 25 ans, là. Levez-vous, j'ai à vous parler. Non, Dominique, ne te lève pas. Non, restez debout, tous les jeunes de moins de 25 ans, là, restez debout. J'ai à vous parler ce matin, écoutez bien. Souvent, j'ai l'impression que les jeunes pensent que la prière, c'est que pour les vieux qui sont à la retraite et qui n'ont rien d'autre à faire. Ou alors pour les moines dans les monastères. Mais j'aimerais vous dire que lorsque Jésus enseigne les disciples, la troupe de disciples était des gars qui avaient entre 17 et 20 ans. Regardez-moi. C'est-à-dire que Jésus avait 12 gars comme vous autour de lui. Comme vous. Souvent, nous, l'image qu'on a des 12 disciples, c'est les 12 vieillards de l'Apocalypse. Et puis bon, dans l'Apocalypse, ils sont pas courbés, hein, ils sont glorifiés. Mais nous, on voit des vieillards. C'est une vision fausse des choses. C'est vous, les jeunes, que Dieu appelle à prier, parce que c'est vous qui êtes exposés plus que n'importe qui ici à la tentation. Réveillez-vous, ne vous laissez pas faire, ne donnez pas à Satan le plaisir de vous détruire. Il vous appelle à le suivre ce matin. Qui que tu sois, où que tu sois, il t'appelle à le suivre. Vous avez le droit de vous rasseoir. Je suis fier de nos jeunes, j'aime nos jeunes. Mais de temps en temps, je me dis, il faut qu'on revienne à ce que l'Écriture dit. Jésus n'a pas enseigné le club du troisième âge. Jésus était jeune lui aussi. Il n'a pas dit, si vous voulez, vous pouvez prier quand vous avez le temps. Non ! 33 ans. Et il savait pourquoi. Quand tu t'endors, le reniement vient. La tentation prend le dessus sur toi. La tentation dans la vie chrétienne est inévitable. Jésus nous enseigne à prier en disant « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. » C'est Alfred Kuhn qui dit « Une traduction qui serait idéale est la suivante. « Garde-nous de céder à la tentation. » plutôt que ne nous induis pas en tentation. Garde-nous de céder. La tentation va venir. Mon frère, ma sœur, il n'y en a pas un ici chez qui le diable va venir. Il n'en oublie aucun. Il a le carnet d'adresses complet. C'est le seul au monde qui a un listing complet. Puis il vient insidieusement. Aie confiance. Pour ceux qui ont vu Balou, j'ai vu qu'il y en a beaucoup qui l'ont vu, hein. Ça me permet de tester les films que vous regardez, hein. Il va venir, tu peux en être sûr. Il va venir. Dans la version synodale, il est dit, j'aime bien ça, ne nous laisse pas tomber dans la tentation. En d'autres mots, si nous sommes tentés, oh Dieu, ne nous laisse pas tomber. C'est-à-dire, ne nous abandonne pas, ne permets pas que nous chutions lorsque nous sommes tentés. Ne nous laisse pas tomber face à la convoitise. Convoitise, un mot que nous citons, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Eh bien, j'ai bêtement pris un dictionnaire micro-Robert, parce que j'en ai pas d'autre. Désir extrême et sans scrupule de posséder une chose, avidité, envie, regarder quelque chose avec convoitise. Convoiter, désirer avec avidité une chose disputée et qui appartient à un autre. Pourquoi la traduction ne nous laisse pas ou garde-nous de céder à la tentation et meilleur que ne nous induit pas en tentation, tout simplement parce que Dieu n'induit personne en tentation. Jacques déclare, écoutez bien ce que Jacques déclare, que personne lorsqu'il est tenté ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il le tente lui-même, personne. Mais chacun est tenté quand il est amorcé par sa propre convoitise. Nous sommes amorcés par notre propre convoitise, ce désir extrême, sans scrupule, de posséder une chose. Nos convoitises, finalement, sont la racine de notre péché. Souvent, nous regrettons d'avoir péché, mais le péché, l'acte en lui-même, n'est plus que la conséquence de la convoitise. Regardez ce que Dieu dit à Caïn. Vous savez, souvent, on parle de Caïn parce qu'il a mal réagi, mais regardez ce que Dieu lui dit. Genèse 4, versets 6 à 7. Le Seigneur lui dit, à quoi bon te fâcher et faire si triste mine? Il était fâché, pourquoi? Dieu avait agréé l'offrande d'Abel et n'avait pas agréé la sienne. Et voilà que la jalousie va commencer à entrer en action. Écoutez ce que Dieu lui dit, moi je trouve que c'est fantastique. Si tu réagis comme il faut, tu reprendras le dessus. Il y a un moment donné où il va y avoir une bataille et tu vas devoir réagir comme il faut. Mais pour réagir comme il te faut l'aide d'en haut. Amen. Si tu réagis comme il faut, tu reprendras le dessus. Sinon, le péché est comme un monstre tapis à ta porte. Il désire te dominer, mais c'est à toi d'en être le maître. Dieu te donne autorité sur le péché. Dieu te donne la capacité de ne pas pécher, de ne pas entrer en colère, de ne pas devenir violent. Dieu te donne la capacité de ne pas commettre l'adultère, de ne pas mentir, de ne pas laisser l'orgueil t'envahir. Dieu me donne, te donne la capacité, si tu réagis bien, alors tu le domineras. Hello? Nous sommes dans une bataille contre le péché. Est-ce que vous me permettez de continuer? Où la convoitise prend-elle naissance? Où la convoitise prend-elle naissance? Eh bien, simplement, elle prend naissance dans nos pensées. Matthieu 9, 4. Car de son cœur viennent les mauvaises pensées qui le poussent à tuer, commettre l'adultère, vivre dans l'immoralité, voler, prononcer de faux témoignages et dire du mal des autres. Beaucoup de croyants essayent désespérément de lutter contre le péché et chaque fois ils retombent, à la fin sont tellement frustrés qu'ils disent « de toute façon je m'en sortirai jamais ». Mais c'est parce qu'ils s'y prennent mal. C'est pas contre le péché qu'il faut commencer, c'est pas contre l'acte que tu fais qu'il faut lutter. C'est contre ce qui est en amont de l'acte. C'est les pensées qui engendrent les convoitises, qui elles amorcent la volonté du péché en toi, c'est là qu'il faut... Écoutez, quand vous voulez couper, quand vous voulez qu'un arbre meure dans votre jardin, est-ce que vous lui coupez toutes les feuilles? Apparemment, hein, il y en a... Si vous voulez que l'arbre meure, qu'est-ce que vous faites? Vous lui coupez pas les feuilles, papa Jean? Non, non, vous allez creuser et vous allez couper les racines. Quand tu luttes contre ton alcoolisme, quand tu luttes uniquement contre l'adultère, quand tu luttes contre la pornographie, ce qu'il te faut, c'est l'attaquer à la racine. Et la racine, ce sont tes pensées. Remarquez, Satan a bien compris que s'il arrive à introduire une pensée en vous, si vous ne l'arrachez pas immédiatement, elle va devenir un arbre. Ça, il le sait. Chez Adam et Ève, ils savaient très bien qu'en semant le doute, il n'a pas dit, mais non, Dieu n'a pas dit. Il a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Allez, t'es vraiment sûr que tu peux pas une fois coucher avec la voisine? Une fois. Oh, une fois. Hein? C'est mon père un jour qui est arrivé chez un frère qui, au moment où il est arrivé, était en train de faire quelque chose qu'il faut pas faire. Et puis il lui dit, pasteur Jean, oh, comprenez donc, c'est une fois dans l'année. Que une fois! Et là, le papa Jean a une bonne réaction. Il lui dit, donc, si ta femme va une fois avec le voisin dans l'année, c'est pas grave, une fois. Ah, non, attends, si je l'aimais, clic, hein. Ça triche, hein. Mais ce que nous n'acceptons pas, Dieu ne l'accepte pas non plus. Il n'est pas question d'une fois. Qu'est-ce que Dieu a dit à Adam dans le jardin? Qu'il devait l'entretenir. D'accord? Et qu'est-ce que vous faites quand vous entretenez le jardin? Ma sœur Shonky est une spécialiste du jardin. Moi, régulièrement, je la vois faire quand j'arrive. Qu'est-ce que tu fais, Nathalie? Tu désherbes. On enlève les mauvaises herbes. Est-ce que vous êtes habitué à désherber le troisième niveau? La capsule, là. Il faut prendre du temps pour la désherber, parce que c'est fou ce qui pousse là-dedans. C'est fou ce qui pousse là-dedans. Alors comment allons-nous faire? Et c'est là le centre de mon message. Prenons un cas de figure. Jésus dit la chose suivante, « Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter... » Il n'a pas dit quiconque regarde une femme. Ça je le dis pour toutes les sœurs qui ont un problème quand leur mari, par hasard, regarde quelqu'un. C'est pas parce qu'il a regardé qu'il faut que vous lui tombiez dessus. On est quand même encore capable de regarder sans convoiter. Tous les frères disent « Amen », les sœurs, c'est comme s'il n'y avait plus de sœurs. Tout d'un coup, je n'ai plus que des hommes. Non, il dit « Celui qui la regarde... » pour la convoiter, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur, parce que la pensée qui est comme une graine va se développer et va t'amener à mener l'acte qu'elle a, eh bien, insufflé en toi. Il te faut donc tout de suite agir. Regardez, il y a une histoire terrible dans la Bible qui vous montre le processus. Suivez rapidement avec moi, dans 2 Samuel 13. Je suis encore à l'heure, hein. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aimna. Donc il aima sa demi-sœur. Là déjà, il y a un gros problème. Amnon était tourmenté. Moi, j'aime ce terme. Amnon était tourmenté. Parce que quand la tentation vient, c'est un tourment qui commence. Jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge. Et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Et maintenant, regardez ce qui se passe. Satan vient. Et Satan vient sous la forme d'une personne. Un de ses amis, Jonadab, fils de Shimea, frère de David. Et Jonadab était un homme très habile. L'ennemi de nos âmes est très habile, ne l'oubliez jamais. Il lui dit, pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre? C'est pour ça que j'évite de maigrir. Je voudrais pas que Dominique ait des soupçons, hein. Fils de roi, ne veux-tu pas me le dire? Amnon lui répondit, j'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. Jonadab lui dit, et regardez, et après ça devient machiavélique ce qui suit. C'est terrible ce qui suit. Il lui dit, mais mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, permets à Tamar, ma sœur, de venir pour me donner à manger. Qu'elle prépare un mets sous mes yeux afin que je la voie et que je le prenne de sa main. Amnon se coucha et fit le malade. Encore un spécialiste de la maladie inventée. Le roi vint le voir Et Amnon dit au roi, je te prie que Tamar, ma sœur, vienne faire deux gâteaux sous mes yeux et que je les mange de sa main. David envoya dire à Tamar, dans l'intérieur des appartements, va dans la maison d'Amnon, ton frère, et prépare-lui un mets. Alors Amnon dit à Tamar, apporte le mets dans la chambre et que je le mange de ta main. Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à Amnon, son frère, dans la chambre. Comme elle les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, viens, couche avec moi, ma sœur. Elle lui répondit, « Non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit pas ainsi en Israël, ne commets pas cette infamie. » Mais il ne voulut pas l'écouter, il lui fit violence, la déshonora et couche avec elle. En d'autres mots, il l'a violée. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte qu'elle n'avait été son amour, et lui dit, « Lève-toi et va-t'en. » Voilà comment ça commence. La convoitise commence à vous tourmenter. Et ça peut être à n'importe quel niveau. Là, c'est maintenant avec une femme. Mais ça peut être la convoitise d'une place. Ça peut être la convoitise d'un objet. C'est disputer à quelqu'un d'autre qui est propriétaire ce qui ne vous appartient pas. Ça va devenir machiavélique. Que pouvons-nous faire alors pour ne pas en arriver là? La Bible dit « Veille sur ton cœur ». Veille sur ton cœur plus que sur toute autre chose. Nous veillons souvent sur tout ce que nous avons et nous oublions notre cœur. Veille sur lui plus que sur toute autre chose. Et ensuite, utilise maintenant la prière. Alors je vais vous expliquer comment l'utiliser. Je vais vous expliquer comment faire. Il y a quelque chose d'essentiel. Quand vous réalisez que la convoitise a pris place en vous, vous allez commencer à prier, mais vous n'allez pas prier n'importe comment. Vous allez prier en confessant de votre bouche le sujet de votre convoitise. Vous allez commencer à proclamer à haute voix ce qui est en train de se passer en vous dans votre temps de prière. Souvenez-vous que la prière, c'est un dialogue avec Dieu. Et il y a de la puissance dans la confession. David avait compris qu'il y a de la puissance dans la confession. Malheureusement, lui, il l'a confessé après coup. Mais il dira, je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'est-ce que c'est confesser? C'est avouer, c'est déclarer, c'est reconnaître et c'est proclamer. Avouer! À partir du moment où vous commencez à avouer, les choses changent. Prenons un cas de figure. On va prendre un cas de figure, on pourrait en prendre 10. Mais prenons le cas de figure de l'adultère, parce que malheureusement beaucoup y tombent. La pensée vient. Tiens, c'est drôle, j'aime être en présence de ma secrétaire. Et j'aime de plus en plus être en sa présence. J'en arrive même au point où je suis en train de me rendre compte que je me fabrique des alibis pour être en sa présence. Ne pensez pas que je ne sais pas comment ça marche. Quand j'ai bossé à Peugeot, il suffisait qu'une femme vienne dans l'équipe et qu'elle soit jolie, mais tout le monde avait une raison d'aller à la machine où elle travaille. Tout le monde. Ah, j'ai oublié ça. C'est juste moi à la machine là-bas. Mais tout le monde avait une raison d'aller voir la machine. C'est drôle, la machine était entourée de dépanneurs à ce moment-là. C'est comme si tout d'un coup, elle était devenue malade, la machine. Vous réalisez donc que, soudain, la présence de cette tierce personne, une femme ou un homme, vous est plus agréable que votre mari. Et puis vous commencez à cogiter. Vous commencez à réfléchir dessus. Comme Amnon, ami Abinadab va venir, le diable va venir, il va dire, mais t'as qu'à faire comme ça, fais comme ça. Et tout d'un coup, vous trouvez des excuses pour être en sa présence, dans la présence de cet homme, de cette femme. Et de plus en plus, vous êtes attiré jusqu'au stade où vous êtes tourmenté. Jusqu'au stade où vous êtes tourmenté. Quand vous en êtes, avant que vous en arriviez à ce point-là, entrez dans le secret de votre chambre et commencez à confesser, c'est-à-dire à dire à haute voix. il faut que vous entendiez. La confession est extrêmement importante. Ô Dieu, je viens vers toi. Tu vois combien Jean-Claude m'attire. Pas moi, hein, je serais une sœur. Hein, j'ai pas envie que ce soit mal interprété, ce truc-là. Mais je le fais pour que Jean-Claude et moi, on soit tranquilles à la sortie. Parce que lui, il a Christine et moi, j'ai Dominique. Alors je préfère le prendre lui. Hein. Seigneur, Jean-Claude m'attire de plus en plus. Quoiqu'aujourd'hui... Aujourd'hui, même là, on est plus sûr, hein. Seigneur, Jean-Claude m'attire de plus en plus. J'aime être près de lui. J'ai même des excuses. Je l'invite même à manger avec sa femme. Tellement j'aime. Seigneur, Seigneur, ce qui se passe en moi ne glorifie pas ton nom. J'agis avec des arrière-pensées. Il y a de l'hypocrisie dans ce que je fais. Et là, vous commencez à proclamer la parole de Dieu en priant. Vous commencez à dire ce qu'elle dit. Pourquoi? Parce qu'il est dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et tu proclames. Et tu cherches la face de Dieu. Et tu lui dis, Seigneur, je veux être semblable à toi, mon maître. Seigneur, je ne veux pas commettre d'adultère. Je ne veux pas déshonorer ton nom. Seigneur, un jour j'ai fait une alliance avec ma femme ou avec mon mari. Seigneur, un jour j'ai contracté une alliance devant toi et j'ai fait une alliance avec toi. Seigneur, garde-moi de céder au péché. Je te le confesse. Je confesse ces pensées. Je les refuse dans le nom de Jésus. Je les refuse dans le nom de Jésus. Et là, tout d'un coup, tu réalises que ta prière devient une réelle bataille. C'est une lutte. Tu lui résistes par la parole parce que Jésus a résisté par la parole. Tu lui ouvres ton cœur, tu lui dis tout ce qui se passe, tu lui dis la vérité, tu le dis à haute voix. Et je prierai les époux de ne pas venir à la porte pour écouter ce qui se dit. Et tout d'un coup, tu sens que ces pensées qui t'obsèdent se relâche. Et tout d'un coup, tu sens qu'elles n'ont plus le même impact sur toi. Et tout d'un coup, c'est comme si tu te réveilles. Avez-vous remarqué que quand les gens sont pris dans le péché, c'est comme s'ils étaient fous? Ils n'arrivent même plus à mesurer les conséquences. C'est comme si le sujet convoité devenait leur seule raison d'être et leur seule raison de vivre. Que leurs enfants vont perdre un papa ou une maman, qu'une famille va exploser, qu'un scandale aura lieu dans l'église, que Jésus-Christ qui est mort pour eux, qui a versé son sang, sera scandalisé. Ils l'ont oublié. Ils sont comme fous. Quand dans la prière, tu te mets à lutter, tout d'un coup, tu te réveilles. Tout d'un coup, au lieu d'avoir des pensées qui viennent de l'ennemi de ton âme, la paix revient. Et puis tu commences à proclamer le nom de Jésus. Et tu commences à lui dire, Seigneur, je te remercie pour la paix que j'ai maintenant. Seigneur, je te remercie parce que tu me rends plus que vainqueur. Seigneur, merci parce que tu me transformes. Imaginez un seul instant, et j'arrive là, à la fin de mon message. Imaginez un seul instant que Amnon ait fait ça. Imaginez qu'Amnon, au lieu d'écouter Abinadab, soit allé dans une chambre et invoquer l'Éternel en disant, Éternel, Éternel des sentiments ignobles remplissent mon âme. Des sentiments à l'égard de ma demi-sœur. Je la convoite tant que je n'arrive plus à endormir. J'en maigris. Je mange plus. Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, délivre-moi. Je confesse mon péché. Je confesse cette pensée qui est une pensée de péché. Libère-moi. Je vous assure qu'il se serait jamais mis au lit. Jamais. Et au lieu d'y perdre la vie parce qu'il y a perdu la vie, Amnon est mort. Absalom l'a soigné. Amnon est mort. N'oubliez pas ça, Amnon est mort. La conséquence, c'est toujours la destruction. Il aurait triomphé. Mon dernier point. Persévérez dans la prière. Persévérez. Laissez-moi juste vous dire ce que la Bible dit. La lutte contre la tentation ne signifie pas que vous avez gagné dès la première bataille. Il faut parfois batailler plusieurs fois. C'est pas une fois que tu vas rentrer dans la chambre. C'est pas deux fois. C'est jusqu'au jour où tu peux rencontrer, eh bien, ta secrétaire. Viens, viens avec moi, viens. C'est jusqu'au jour où tu peux rencontrer ta secrétaire sans plus avoir de sentiments spéciaux pour elle. Elle est redevenue ta secrétaire. Elle n'est pas devenue celle avec qui tu rêverais de vivre. Elle est devenue ta secrétaire. Et tu lui dis, Madame Meyer, prenez note s'il vous plaît, prenez place. Et tu vas plus essayer de la faire venir pour trois fois rien. Tu vas pas essayer chaque fois de la faire venir pour ceci, pour cela. C'est fini. Elle est nouveau ta secrétaire. Mais tu n'arrêtes pas de prier jusqu'à ce que tu aies gagné. Tu n'arrêtes pas. Et vous savez ce que c'est la prière? La prière, c'est comme des coups de poing que vous donnez au diable. Il revient. Elle est quand même jolie. Et tu sais, tu serais bien avec elle. Rends-toi compte, regarde ta femme, elle ressemble toujours plus à sa mère. Et tu luttes, et tu luttes. Et tout d'un coup, il est KO. Il est KO, il parle plus. Et tu es libre. Et tu es libre. Confesse, prie et remporte la victoire. Merci, cher frère. Il est dit de Jésus. Dans Luc 22, Père, il était tenté lui aussi. Si tu voulais éloigner de moi cette coupe, il était tenté de descendre de sa croix. Tu es peut-être tenté d'arrêter ta vie chrétienne. Tu es peut-être tenté de dire, moi je retourne dans le monde. Tu es peut-être tenté, toi qui es jeune, de faire comme les autres. Jésus va résister. Il est dit, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Étant en agonie, il priait plus instamment. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Ne me dites pas que ce n'est pas un combat. Ne me dites pas qu'il n'y a pas une lutte à mener contre le péché, contre la convoitise. Pierre dira, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Après que Jésus est vaincu dans le désert, qu'est-il dit? Il est dit, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment plus favorable. Il t'a pas oublié, il va revenir. Il va revenir. D'où tu dois persévérer? Ne t'endors pas. Quand tu t'endors, tu es en danger. Il est dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché. Hébreux, chapitre 12, verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Mes amis, la lutte contre le péché, c'est une lutte à mort. Il n'y a pas de vainqueur. Il y a un gagnant et un perdant. Ou c'est toi le perdant, ou c'est le diable le perdant. Mais si tu veux gagner, prie et ne te relâche pas. Fermons nos yeux.
Ce message vous est offert par la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Retrouvez-nous sur le www.porte-ouverte.com.